VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Et les médias Bangui, bonjour à tous. On commence par le Burundi. Un enfant a été tué, au moins une dizaine de personnes blessées dans l'explosion ce matin d'au moins 5 grenades dans la capitale Bujumbura. L'enfant âgé d'une dizaine d'années a été tué au marché de Sioni dans le quartier de Ngagara. Au nord de la ville, a indiqué à l'AFP une source policière. 3 grenades lancées par des hommes circulant à moto ont explosé dans le centre de Bujumbura, dans le quartier de Roero et Buyenzi, et 2 autres à Ngagara. D'après les mêmes sources, ces attaques interviennent alors que l'Union européenne doit entériner ce lundi l'échec de ses consultations avec le Burundi sur les droits de l'homme et la démocratie et devrait annoncer une prochaine suspension de son aide directe à Bujumbura, selon une source diplomatique à Bruxelles. Le dépouillement des bulletins a commencé dimanche en Centrafrique après un vote dans le calme pour désigner qui Danissé Georges Ndolenguele ou Faustin Archange Touadéra, deux anciens premiers ministres, sera le président qui devra sortir le pays de 3 années de violence. Quelques 2 millions d'électeurs étaient appelés à départager les candidats, tous deux âgés de 58 ans, arrivés en tête du premier tour le 30 décembre. De l'avis des électeurs, le vote s'est bien déroulé.
L'organisation a été bien faite. Vraiment, les choses ont démarré à l'heure exacte, à 6 heures.
Les erreurs que nous avons constatées dans les élections du premier tour ont été un peu corrigées par l'ANE.
L'élection, ça a été bien passé. Nous étions bien arrivés et les listes sont sorties.
Tout se passe bien, mais sinon, le taux, vraiment, c'est pas comme auparavant.
Voilà, les électeurs, les observateurs électoraux, eux, estiment que ce deuxième tour de l'élection présidentielle en Centrafrique s'est bien déroulé. Souleymane Denis Ndiaye est le chef des observateurs de l'Union africaine.
Ce second tour semble être mieux organisé que le premier tour. C'est mon constat. Le matériel électoral était déjà là avant 6 heures du matin. Le constat est là. Il y a moins d'affluence dans les bureaux de vote qu'au cours du premier tour. Bon, bien entendu, une élection n'est jamais pareille à une autre.
Au Congo-Brazzaville, une femme dirigeante d'opposition, Claudine Mounari, a été investie dimanche par son parti pour se présenter à la présidentielle du 20 mars en République du Congo. Claudine Mounari, ancienne ministre de Denis Sassou Nguesso, a été adoubée par le parti qu'elle dirige, le Mouvement pour l'Unité, la Solidarité et le Travail. Son entrée en scène porte à 10, dont 2 femmes, le nombre de candidats déclarés au scrutin du 20 mars, lors duquel M. Sassou Nguesso compte briguer un nouveau mandat. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu, député leader de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, a été brièvement arrêté hier, puis libéré dans la soirée. Voici les premières déclarations de l'opposant congolais après avoir recouvré la liberté.
Je sors du bureau et je vois 5 militaires armés. Ils viennent avec 2 agents de la sécurité. Ils disent, monsieur, nous sommes venus ici parce qu'on nous a dit qu'il y a des troubles ici. Je dis, mais vous avez vu des troubles? Il n'y a pas de troubles. Ouvrez la voiture, j'ai ouvert la voiture. Ils ont pris des documents. Ce sont des documents signés qui appellent à la journée ville morte de mardi 16 février. Ils ont commencé à me tabasser. Ils m'ont blessé. Regardez les sangs. Ils m'ont insulté proprement. Je suis député, monsieur. Non. Quel député? Il n'y a pas de député ici.
Martin Fayulu au micro de nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire en RDC. En Ouganda, le leader de l'opposition connaît un sort moins heureux. Kizza Besigye, l'un des candidats de l'opposition à la présidentielle, a été aujourd'hui arrêté selon les médias locaux cités par l'agence France Presse.
VOA Afrique en direct de Washington.
Les autorités nigérianes tentent de convaincre les dizaines de milliers de déplacés qui s'entassent dans des camps dans le nord-est du pays après avoir fui les exactions des islamistes de Boko Haram de retourner chez eux. Mais peu y sont prêts en raison de la poursuite des attentats. Le président Muhammadu Buhari et son gouvernement ont estimé qu'un bon nombre des 2 millions de déplacés du conflit interne qui dure depuis plus de 7 ans pouvaient commencer à rentrer, assurant que l'armée avait le dessus sur les insurgés. Mais les attaques se poursuivent, soulevant la question de savoir si la situation est suffisamment stabilisée. Une rencontre de la communauté arabe s'est tenue hier à Gao, au Mali, dans le cadre des accords d'Anéfis. Les Arabes venus de toute la région se sont retrouvés pour poser les jalons de la réconciliation au sein de leur communauté et inviter les autres à en faire autant. Correspondance à Gao, Boubacar Touré.
La commission suivie qui garantit les accords d'Anéfis est invitée à la rencontre a tenu à faire ce déclarage. Al-Mahmoud Ag Alian, ancien gouverneur de la région de Kidal, porte-parole de la commission.
Pour une bonne application de l'accord d'Alger, il faudrait aboutir d'abord à une réconciliation des communautés. Notre combat maintenant, c'est préparer le campement, le désarmement et la reconstitution des nouvelles armées et le redémarrage des activités socio-économiques.
Que pensent les populations sereilles de cette rencontre des Arabes? Nous avons interrogé un habitant de Gao.
Si aujourd'hui, toute cette communauté, dans sa diversité, dans ses composantes, se retrouve pour avoir un même responsable, pour regarder l'avenir de la même vision, c'est extrêmement important pour le processus de paix.
À l'issue donc de cette rencontre, un bureau de 50 membres a été mis en place avec comme coordinateur Hanoun Ould Ali. Elle a pour mission d'accompagner le processus de paix au Mali. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Grand meeting de la coalition des partis politiques de l'opposition ce week-end à N'Djamena. C'est au Tchad, présidé par le chef de file de l'opposition démocratique tchadienne, Saleh Kebzabo. Ce meeting vise à préparer l'électorat tchadien à opter pour les urnes citoyennes le 10 avril prochain. André Côte-Bajingar.
Cette première sortie de l'opposition à 2 mois de l'élection présidentielle est une démonstration de force qui a drainé un public constitué en majorité de jeunes. Saleh Kebzabo explique pourquoi le président candidat Déby a annoncé la modification de la constitution.
C'est lui qui a changé la constitution en 2006 pour rester au pouvoir. C'est le même aujourd'hui qui vient vous dire qu'il a découvert que la démocratie, c'est 2 mandats et pas plus. La vérité, c'est qu'il espère être élu le 10 avril. Il va modifier la constitution et il va dire qu'on Nkurunziza là-bas au Burundi, bon maintenant je viens avec vous pour un autre mandat encore. C'est pour ça que vous allez le sanctionner le 10 avril avec un carton rouge.
La prochaine action pour réclamer les élections libres et transparentes sera l'organisation d'une marche pacifique. Reste à savoir si cette marche sera autorisée par le gouvernement quand on sait que plusieurs tentatives de marche pacifique initiées par les jeunes diplômés sans emploi pour protester contre la loi des finances pour l'exercice 2016 sont soit violemment réprimées, soit étouffées dans l'œuvre par la police nationale. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Un gouvernement libyen d'union nationale a été formé et sa composition a été soumise au Parlement internationalement reconnu, a annoncé dimanche le Conseil présidentiel libyen soutenu par l'ONU. Ce gouvernement compte 18 membres, dont 5 ministres d'État. Les grandes puissances estiment que seul un gouvernement d'union nationale peut constituer un interlocuteur fiable pour combattre l'État islamique et pour mieux juguler les migrations clandestines africaines vers l'Europe au travers de la Libye. Haïti a un nouveau président. Le Parlement haïtien a élu hier avant l'aube Joslem Priver, président pour un mandat de 4 mois seulement. Sa mission principale, achever le processus électoral reporté le mois dernier suite à une vague de protestations violentes de l'opposition politique. Au micro de Chérubin Dorcil, le journaliste et ancien aspirant à la présidence d'Haïti, Clarence Renoir, relève l'un des défis auxquels fera face le nouveau chef de l'État haïtien.
À un mandat fixé dans le temps avec une mission qui est claire, poursuivre le processus électoral dans un délai de 120 jours environ. Évidemment, il ne faut pas se faire cette illusion. Les 120 jours seront peut-être pas suffisants pour résoudre tous les problèmes posés par les élections reportées le 24 janvier dernier. Et en tout cas, la mission du gouvernement est claire, c'est de remettre le processus électoral sur les rails, créer la confiance en intégrant le plus possible les partis politiques dans la gestion du pouvoir et à partir de ce moment, relancer le processus démocratique dans son ensemble.
Tout cela en 120 jours.
Alors oui, c'est là le défi. Moi, je ne pense pas, personnellement, je le dis, je ne pense pas que les 120 jours vont suffire pour faire tout ça. C'est un pays qui connaît une crise démocratique. Ce n'est pas une crise électorale uniquement, c'est une crise de l'implantation de la démocratie à laquelle ce pays fait face depuis 30 ans. À mon avis, il faudrait plus de temps pour remettre certaines institutions en place et se rassurer qu'elles puissent fonctionner, permettre à ce régime d'entrer dans les habitudes, dans les mœurs politiques en Haïti.
Le journaliste et ancien candidat à la présidence d'Haïti, Clarence Renoir. Un parlementaire sud-coréen de premier plan, membre du parti au pouvoir, a réclamé aujourd'hui que Séoul soit doté d'une force de dissuasion nucléaire face à la menace croissante représentée par le programme nucléaire et balistique nord-coréen. Les Sud-Coréens favorables à ce que la Corée du Sud dispose de l'arme nucléaire sont minoritaires, mais leur nombre augmente à chaque essai nucléaire coréen, nord-coréen. La Corée du Sud est l'un des 190 signataires du traité de non-prolifération auquel la Corée du Nord a tourné le dos en 2003. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Fin de ce journal donc. Le prochain vous sera présenté dans 50 minutes par Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.